présente L'Enfant de Maria Montessori, lu par Valérie Lemaître. Première partie. Chapitre 1. Le siècle de l'enfant. Le progrès, réalisé en peu d'années dans le domaine des soins et de l'éducation des enfants, a été si rapide et surprenant qu'il doit être surtout attribué à une prise de conscience, plus qu'à une évolution des modes de vie. Outre le progrès dû à l'hygiène infantile, qui s'est développé dans la dernière décennie du XIXe siècle, il y a aussi eu la manifestation de nouveaux aspects de la personnalité même de l'enfant, lui conférant une grande importance. Dans quelques branches que ce soit de la médecine, de la philosophie, voire de la sociologie, il est aujourd'hui impossible de ne pas prendre en considération les apports qui proviennent de la connaissance de la vie de l'enfant. L'influence clarificatrice que l'embryologie a eue sur toutes les connaissances biologiques, y compris sur celles qui sont liées à l'évolution des êtres, pourrait donner une image approximative de l'importance de ces connaissances de la vie de l'enfant. Mais l'influence de la connaissance de l'enfant sur toutes les questions auxquelles l'humanité est confrontée est encore de loin la plus grande. Ce qui pourrait donner une impulsion définitive et puissante à l'amélioration de l'humanité n'est pas l'enfant physique, mais l'enfant psychique. L'esprit de l'enfant pourrait déterminer ce que peut être le véritable progrès des hommes et, qui sait, présager le début d'une nouvelle civilisation. Cela fait longtemps que l'écrivain et poète suédois Helen Key a prophétisé que notre siècle serait le siècle de l'enfant. Celui qui aurait la patience de faire des recherches parmi les documents historiques y trouverait de singulières coïncidences d'idées avec le premier discours de la couronne prononcé par le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, en 1900. Précisément au moment de passer d'un siècle à un autre, quand il a succédé au roi assassiné. Se référant à la nouvelle ère, en ce début de siècle, il l'a appelé le siècle de l'enfant. Il est fort probable que ces accents prophétiques aient été l'image reflétée des impressions que la science suscitait. Science qui, dans les 10 dernières années du siècle passé, s'était occupée de l'enfant souffrant, lui qui était 10 fois plus touché que l'adulte par les maladies infectieuses et de façon mortelle. La science s'était aussi penchée sur l'enfant considéré comme une victime des tourments scolaires. Personne n'aurait pu prévoir que l'enfant renfermerait en lui-même un secret vital, capable de déchirer le voile sur les mystères de l'âme humaine, une inconnue nécessaire à l'individu adulte pour résoudre ses problèmes individuels et sociaux. Ce point de vue moderne peut être le fondement d'une nouvelle science de recherche sur l'enfant, et son importance peut influencer toute la vie sociale des hommes. La psychanalyse et l'enfant. La psychanalyse a ouvert un champ d'investigation complètement inconnu, permettant de percer les secrets du subconscient. Mais elle n'a, en pratique, pas été capable de résoudre le moindre problème essentiel de la vie. Cependant, elle pourrait nous préparer à comprendre la contribution que l'enfant peut apporter. On peut dire que la psychanalyse a traversé le cortex de la conscience, jusqu'alors considéré en psychologie comme quelque chose d'insurmontable, comme l'étaient les colonnes d'Hercule dans l'histoire antique, c'est-à-dire représentant une limite au-delà de laquelle les navigateurs grecs plaçaient superstitieusement la fin du monde. La psychanalyse est allée au-delà, en pénétrant l'océan du subconscient. Sans cette précieuse découverte, il serait difficile d'expliquer simplement la contribution que l'enfant psychique peut apporter à l'étude approfondie des problèmes humains. Nous savons, bien entendu, qu'au début la psychanalyse n'était rien de plus qu'une nouvelle technologie de guérison des maladies psychiques. C'était en effet, au départ, une branche de la médecine. La découverte du prodigieux pouvoir que possède le subconscient dans les actions des hommes fut le résultat vraiment lumineux de la psychanalyse. Il a fallu faire une étude des réactions psychiques pénétrant au-delà de la conscience, ce qui a révélé d'inimaginables faits secrets et réels, abolissant les idées anciennes. Cela a révélé l'existence d'un monde inconnu, d'une dimension considérable, auquel on peut dire que le destin des individus est lié. Mais ce monde inconnu n'est pas éclairé. Une fois franchies les limites des colonnes d'Hercule, personne ne s'aventurera dans les immenses étendues de l'océan. Une profonde influence, n'ayant d'équivalent que les préjugés grecs, compta longtemps Freud dans les limites pathologiques. Déjà à l'époque de Charcot, au siècle dernier, le subconscient était apparu dans le domaine de la psychiatrie. Le subconscient a ouvert son chemin en se manifestant, s'ouvrant vers l'extérieur, grâce à une fermentation interne des éléments désordonnés qui le constituent. Dans des cas exceptionnels, il se manifestait dans des états de profonde maladie psychique. Par conséquent, les étranges phénomènes du subconscient étaient simplement enregistrés comme des symptômes de la maladie, contrastant avec les manifestations de la conscience. Freud fit le contraire. Il découvrit la manière de pénétrer dans le subconscient à l'aide d'une technique laborieuse, mais il lui fallut rester longtemps dans le champ pathologique. Pour quelles raisons ? On peut se demander quels êtres normaux, au sens de qui n'ont pas de soucis psychologiques, se seraient soumis aux pénibles épreuves de la psychanalyse ? N'est-ce pas une sorte de dissection opératoire de l'âme ? En cherchant à traiter des maladies psychiatriques, Freud aperçut les conséquences qu'elles peuvent avoir sur la psychologie. Et, en s'appuyant sur ces cas pathologiques, il fit des déductions personnelles qui débouchèrent sur la psychologie nouvelle. Freud a imaginé l'immensité de l'océan, mais il n'a pas réussi à l'explorer. Cependant, il lui a tout de même attribué les caractéristiques d'un détroit tourmenté. C'est pour cela que les théories de Freud n'étaient pas satisfaisantes, tout comme sa technique de traitement des patients, car il ne conduit pas toujours à la guérison des maladies de l'âme. Les traditions sociales, qui sont le fruit d'expériences séculaires, sont pour cette raison apparues comme une barrière infranchissable à toute généralisation des théories de Freud. En revanche, tout comme la lumière fait disparaître les ombres, une nouvelle vérité radieuse et resplendissante fit tomber les traditions. L'exploration de cette immense réalité est bien différente de la technique d'un traitement clinique ou d'une déduction théorique. Le secret de l'enfant. La tâche de pénétrer dans ce très vaste champ inexploré revient à différents secteurs scientifiques et nécessite plusieurs clarifications de concepts. Il faut étudier l'homme à son origine, en essayant de déchiffrer son développement dans l'âme de l'enfant, à travers les conflits qu'il peut rencontrer avec l'environnement, afin de découvrir le tragique secret de la lutte intense qui oblige l'âme humaine à se déformer, devenant sombre et ténébreuse. Ce secret a été esquissé par la psychanalyse. L'une de ses découvertes les plus remarquables, issue de ses applications techniques, a été de trouver que l'origine des psychoses remonte à l'enfance. La découverte la plus impressionnante et la plus perturbante de la psychanalyse est l'existence de souffrances infantiles, qui n'étaient pas celles que l'on rencontre fréquemment, mais plutôt des souffrances endormies dans la conscience et par conséquent mal connues, révélées par des souvenirs rassemblés dans l'inconscient. Ces souffrances, constantes et récurrentes, de nature purement psychique, n'avaient jusqu'alors absolument pas été perçues comme des faits susceptibles de dévier psychiquement la personnalité adulte de façon morbide. Il s'agissait de la répression de l'activité spontanée de l'enfant par l'adulte, qui le domine sans cesse. Cette répression était avant tout liée à l'adulte qui a le plus d'influence sur l'enfant, à savoir sa mère. La psychanalyse contient deux plans d'investigation qu'il faut bien distinguer. Un plan plus superficiel, qui dérive de l'affrontement qu'il y a entre les instincts de l'individu et les conditions de l'environnement auquel il doit s'adapter. Conditions qui sont en conflit avec ses désirs instinctifs. C'est de ce plan de la psychanalyse que relèvent les cas guérissables. Quand on parvient à faire émerger dans le champ de la conscience les causes perturbantes qui ont tendance à rester cachées. Mais il y a un autre plan, plus profond, celui de la mémoire infantile, dans lequel le conflit ne se développe pas entre l'homme et son environnement social actuel, mais entre l'enfant et sa mère. Autrement dit, de façon plus générale, entre l'enfant et l'adulte.